C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Hello, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, nous continuons l'enquête auprès de François Godard, enquête finement menée par Angèle Gauduchon.
Tu vas pas faire ça ? Si, j'ai signé ce matin. Il te faut l'accord de tes parents. J'ai 18 ans, et à l'armée, ça suffit. En Algérie, c'est la guerre. Je sais. J'ai juste devancé l'appel d'un an. Tu crois vraiment que si j'avais attendu, la guerre, elle se serait terminée juste pour moi? Je crois surtout que si tu avais continué tes études, tu aurais pu repousser ça plus loin. Et alors oui, peut-être, la guerre, elle aurait été terminée. Mais j'en ai assez, maman! J'en ai assez d'aller bosser comme un con à l'usine. J'ai envie de changer d'air. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Et puis quand je rentrerai, j'aurai appris des choses. Je pourrais peut-être trouver un autre boulot. Je me suis pas engagé. J'ai juste devancé l'appel. T'es pas bien avec nous? Non. Comment il faut te le dire? Alors monsieur est pas bien chez sa mère. Et c'est pour ça qu'il va aller se battre contre des résistants. Des résistants, Joseph. Comme ton père, comme moi. À quoi ça sert qu'on soit battu contre Franco, contre les staliniens, contre les nazis? Mais tu t'es battu contre tout, maman! Comment je fais, moi, pour exister avec ça? Tu t'es battu contre tout, t'as tout le temps raison! Si ton père était là, il te dirait ce que c'est, la guerre. Eh ben justement, il est pas là. Tu vois où ça vous a amené d'avoir toujours raison sur tout? Il est pas là, ça fait 15 ans qu'il est pas là. Et c'est pas avec ton Ernesto que tu vas le remplacer. Arrête, Joseph. Ernesto, c'est quelqu'un de bien. Tu crois que c'est facile, toi, de reconstruire sa vie quand on est une femme, une étrangère, qu'on a 45 ans, qu'on a des enfants? Je veux pas remplacer ton père. Ton père, il était courageux, il s'est battu pour quelque chose. Et moi, il faudrait que je reste chez ma mère, c'est ça? Tu serais fier de moi si j'allais bosser tous les jours à l'usine et que je revenais manger le gazpacho chez toi le dimanche? Je veux pas que tu te fasses tuer. Et pour rien en plus. Mais je vais pas me faire tuer, maman. Il suffit de se débrouiller, je trouverai une planque au ravitaillement, dans la mécanique, et je me ferai pas tuer. Faut toujours que tu t'inquiètes. Joseph Desroses a quitté Toulouse pour rejoindre son unité le 15 novembre 1959. Il est parti faire ses classes en Allemagne. Il en est sorti caporal. Caporal, c'est bien, ça coûte pas cher et ça donne l'impression qu'on est quelqu'un. De toute façon, il n'aurait pas pu monter plus haut. Sur son livret militaire, il y a un liseré rouge. Quand tes parents sont fichés, on va quand même pas laisser un fils d'anarchiste espagnol diriger une unité dans l'armée française. Le 20 février 1960, il est arrivé à Marseille. Il y est resté 3 jours. Ils étaient des centaines d'appelés à attendre à la caserne Sainte-Marthe que le bateau vienne les prendre. Le deuxième jour, Joseph est descendu sur la Canebière et il a acheté 3 carnets. 3 beaux carnets reliés. En cuir, le genre qu'aurait aimé sa mère. Le genre de carnets qui sont sortis de nulle part quand j'ai commencé à rencontrer les anciens appelés. On m'avait dit, tu veux travailler sur la guerre d'Algérie? Eh ben, tu sais, les anciens, ils veulent pas en parler. Quand j'arrivais chez l'un d'entre eux, J'avais à peine le temps de m'asseoir qu'on y était déjà. Que les carnets s'ouvraient dans mes mains, remplis d'écritures fines, de photos floues, d'histoires qu'attendaient que ça pour être racontées. Les anciens appelés en Algérie sont vieux. Ils n'ont plus de temps à perdre. Sur la première page du premier carnet, donc.
« 24 février 1960.
Ça y est, je suis en Algérie. Nous sommes partis de Marseille hier, à bord du Ville d'Alger. Sortir de la rade de Marseille, c'était magnifique. Entrer dans le port d'Alger, c'était comme pousser la porte d'un autre monde. Ici, le soleil est éblouissant, même en plein hiver. La ville est blanche, éclatante, bruyante. Si on n'était pas tous en uniforme, on aurait du mal à croire qu'il puisse y avoir une guerre dans un endroit pareil. À propos d'uniforme, sur le bateau, on nous a fait mettre en rang, tenue de combat, armes et tout. J'ai un calot sur la tête, une mitraillette MAT 49 dans les mains, une ceinture de grenade, un chapelet de munitions passé sur l'épaule, un pistolet sur la cuisse droite, un couteau sur la jambe gauche. C'est lourd. Et c'est pas tout. J'ai l'impression d'être un bibindome dans un champ de bibindome. En moins souriant. Le capitaine est passé dans les rangs pour nous remettre nos plaques militaires. Un petit bout de ferraille avec une chaîne qu'on doit toujours garder autour du cou. Au milieu de la plaque, il y a une ligne de trous pour pouvoir facilement la casser en deux. À côté de moi, le deuxième pompe, métayer, a demandé à quoi ça servait. Et le capitaine a répondu « Quand tu seras mort, petit con, ça nous permettra de t'identifier facilement pour prévenir ta putain de famille. »
Bon, ça s'appelle résistance, c'est mémoire aussi alors, non ?
Ouais, c'est
ça parle vraiment de mémoire.
Ça parle beaucoup de mémoire, tout en étant toujours dans l'idée, voilà, comment on la métabolise en objet artistique. Parce que le musée, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon métier. Et puis les cours d'histoire, ce n'est pas mon métier non plus, ça ne m'intéresse pas. Mais je pourrais élargir le truc et dire la politique, ça m'intéresse. Enfin, homme politique, ça ne m'intéresse pas. Résistant armé, j'aimerais bien ne jamais avoir à le faire. Mais il y a un petit peu de tout ça dans Résistance. Effectivement, cette idée de se dire comment moi, à ma place d'artiste, je peux travailler ce matériau-là pour transmettre effectivement la mémoire de ces combats-là. Parce que si on n'a pas cette mémoire-là, je pense qu'on va avoir encore plus de mal à mener les combats d'aujourd'hui, quoi. Et tout en le faisant à la manière d'un artiste, avec le partage d'émotions qui peut exister entre un artiste et un public.
T'as le souci, quand tu crées un spectacle, t'as le souci que ça serve à quelque chose ? À quelqu'un ? À quelque chose ?
C'est une bonne question. Je crois que non. C'est-à-dire que j'ai le rêve que ça soit pas inutile. Mais je me dis que sans doute la façon la plus juste de faire que ça soit pas inutile, c'est que ça soit d'abord utile à moi. C'est-à-dire que je pense que ce que je peux apporter de plus enrichissant à la collectivité, c'est d'être le plus profondément moi-même sur la scène. Donc, quelque part, si moi j'ai besoin de raconter cette histoire-là, et que je vais au fond de ce besoin-là, peut-être ça servira à quelque chose, quoi, tu vois. Mais ça, c'est la réponse, tu vois, un peu de fond. Après, quand on était en train d'écrire le premier épisode, c'était à la fin de l'année 2005, et ça pète dans les banlieues, une fois de plus. Et vraiment, je me souviens à l'époque de m'être dit, bon sang, quand est-ce qu'on arrivera à rassembler l'énergie des gamins des banlieues qui n'ont rien à perdre
dans une direction.
Et la réflexion politique de gens qui ont sûrement des tas de bonnes idées, mais qui ont un peu plus peur de se salir les mains, quoi. Parce que sans ça, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, je crois qu'il y a besoin pour les combattants d'aujourd'hui et de demain d'avoir un bout de trace de mémoire des combats du passé. Parce que sans ça, on repart tout le temps à zéro, quoi. Et encore une fois, la guerre d'Espagne en est un très bon exemple. C'est-à-dire que déchirements entre les différentes parties du camp républicain sont quand même une vraie question par rapport à avoir la possibilité de gagner une guerre comme celle-là, quoi. Donc bon, bah voilà, c'est des... Et en même temps, elles sont réelles, c'est pas du baratin. Enfin, il y avait des vraies différences. C'est clair. Donc voilà. Donc j'ai toujours derrière cette idée-là, bien sûr, parce que je suis citoyen et que je voilà. Mais je pense que la meilleure réponse que je peux y apporter moi, c'est d'être le plus profondément au fond de ce que j'ai à dire en tant qu'artiste.
Je suis arrivé à Sainte-Charlotte. C'est un hameau perdu au milieu de la Grande Kabylie. Une grosse ferme plutôt, tenue par un
coup. Après les mutins de 1917, le Front populaire de l'été 36, la guerre d'Espagne et les brigades internationales, les maquisards de 1943-1944, ce que vous entendez là, c'est un extrait du cinquième épisode de Résistance sur le thème de la guerre d'Algérie.
On n'a vu personne. Le pays est vide, c'est assez étrange. Le sergent Moreau transporte plusieurs gourdes dans son paquetage. Et à chaque pause, il fait le tour, il propose à boire, on discute un peu. Il a l'air sympa, le sergent. Je pourrais peut-être m'adresser à lui pour trouver une planque. En même temps, si on croise jamais personne en patrouille, autant rester dehors. On risque pas grand-chose.
12 mars 1960.
Depuis une semaine, on n'a rien fait. En fait, j'ai l'impression qu'à l'armée, même ici, la plupart du temps, on ne fait rien. J'ai reçu la première lettre de Monique. Elle va bien. Elle dit que je lui manque. Hier, il y avait aussi une lettre de maman, mais je ne l'ai pas ouverte. Rien qu'à l'épaisseur de l'enveloppe, j'entends déjà l'ampleur de ses reproches.
15 mars 1960.
Hier, j'ai rencontré la guerre. Mais de loin. On était en patrouille dans la montagne, toute la section. On a entendu des tirs. On s'est planqué, on a attendu. Le radio a pris des nouvelles. Au bout d'une heure, on est reparti. Et c'est tout. On n'a vu personne. C'est à se demander si tout ça n'est pas qu'un énorme mensonge. Au poste, les anciens parlent des embuscades. Apparemment, ça a chauffé ici avant qu'on arrive. Mais vu tout ce qu'ils avalent de bière, je sais pas bien ce qu'il faut croire. Nous, la section, on boit pas trop. Le sergent Moreau y veille. Il préfère toujours qu'on parle. Je sais pas, il doit être journaliste dans le civil. Il nous fait raconter notre vie. Au moins, ça nous occupe. On a marché toute la nuit. Une partie de la matinée. La Kabylie, c'est beau, mais à crapahuter, c'est fatigant. Quand on est repassé par le hameau, Kadiou a voulu prendre de l'eau au puits. Et le colon est arrivé à ce moment-là sur sa jeep. On s'est fait engueuler, fallait voir ça. Il y avait ces chiens qui nous aboyaient dessus, lui qui nous insultait, il disait que l'eau c'était pour les récoltes, qu'on se croyait tout permis, qu'on voyait bien que c'était pas nous qui avions transformé ce désert pourri pour en faire une terre qui rapporte. C'était incroyable. On se serait cru dans un western quand la cavalerie attaque le village des Indiens. Sauf que... ici, normalement, la cavalerie, c'est nous. Et là, on se faisait traiter comme si on était les Indiens. Le colon n'a pas dû aller souvent au cinéma. Il n'a pas compris le film.
18 mars 1960.
Nuit. Réveillé en sursaut. Ça mitraille dans tous les sens. On est tous debout, prêts à tirer. Mais tirer sur quoi? La fusillade dure quelques minutes et aucun d'entre nous n'a même pu apercevoir d'où ça venait. Ce matin, on a fait le tour, on a trouvé des douilles, mais rien d'autre. Le désert a avalé les maquisards. À moins que ça ne soit la terre qui rapporte. Ça y est, je sais. Moreau n'est pas journaliste, il est fils de mineur, et il n'a pas voulu continuer à descendre au puits. Il a juste 2 ans de plus que moi. Après le ratissage, il nous a fait faire des exercices de montage et démontage d'armes à l'aveugle. Ensuite, on a fait des photos, la section 2 après son baptême du feu, puis on a joué au foot. Les sections 1 et 3 nous regardent d'un drôle d'air, mais ça va. La nuit dernière, on était aussi prêts au combat que tous les autres.
27 mars 1960.
Un mois déjà que je suis ici. Je m'ennuie.
3 avril 1960.
C'est l'horreur. Le régisseur et l'intendant de la ferme ont été égorgés cette nuit. Le sourire kabyle, ça s'appelle. On part en ratissage.
3 avril 1960, plus tard.
On n'a rien trouvé. La montagne est déserte. Les hommes s'énervent. Je n'ai pas vu les cadavres, mais ça doit être moche. Pourtant, franchement, c'était des ordures. L'intendant, faut voir le prix qu'il nous faisait payer pour les fruits qu'on lui achetait. Et le régisseur, les anciens disent qu'il avait toujours une petite bougnoule de 12 ans à offrir aux invités.
Waouh, pas facile à entendre, hein, mais sans doute que c'est nécessaire. Ces éléments de spectacle sont issus des témoignages des gens qui ont vécu la guerre d'Algérie. Les événements, comme on l'a longtemps dit. Peut-être d'ailleurs que le silence qui a pesé sur tout cela est resté comme un ferment mauvais qui par moments ressort. On voit bien que résister, c'est quelquefois simplement prendre la parole, dire les choses. Un peu de musique avec Ella Fitzgerald, Caravane.
To the magic
on rentre aussi dans des choses pratiques. Tu travailles en équipe.
Ouais.
C'est la même équipe, tu dis.
Depuis le début.
Et là aussi, il y a quelque chose de singulier.
Ah bah oui.
Quand même. Et j'imagine que bon, forcément, vous vous êtes apprivoisés, vous avez construit ensemble un langage commun. En même temps, tu m'as raconté tout à l'heure, pendant qu'on était en train de manger, une mésaventure. Enfin, une mésaventure, une aventure en tout cas, avec le dernier spectacle
mais c'est...
Qui est quand même... Oui,
mais c'est même pas une mésaventure.
Un travail de résistance, c'est intéressant.
C'est effectivement, dans l'écriture du dernier spectacle, on s'est trouvé un moment
donc
à devoir tout faire.
Emmaüs.
Sur Emmaüs, voilà, sur les communautés Emmaüs. Qui est vraiment celui sur lequel forcément j'avais le plus de mal à trouver de la distance, puisque c'est réellement mon enfance. Je suis né là-dedans, j'ai vécu là-dedans, voilà. Donc pas facile. Et donc, trouver l'endroit juste n'est pas facile. Et donc, on a essayé des trucs, et puis on a tout écrit, voilà. Et puis, ça n'allait pas, et les musiciens m'ont dit, il faut tout recommencer. Et ils avaient raison sur le fond. Alors, c'est difficile sur le moment où ça se présente. Évidemment, ça a été un moment très compliqué. Mais...
Parce que, pour resituer pour les gens qui écoutent, un spectacle, ça ne se construit pas en deux secondes.
Voilà, on avait un petit peu écrit déjà.
Presque un an de travail, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Des périodes de résidence, c'est-à-dire de moments où tu t'installes quelque part à travailler, je ne sais pas, 8 heures par jour.
Oui, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines.
Dans une direction.
Et puis,
vous aviez épuisé tout.
Voilà, tous ces temps-là étaient passés.
Résidence, vous aviez écrit la musique, vous aviez écrit le texte évidemment.
Ouais.
La mise en scène.
La mise en scène était faite.
La création lumière, j'imagine.
Était en train d'être faite. La scène était en train d'être finie.
Et un jour, tes collègues musiciens te convoquent et te disent ça ne va pas du tout, il faut tout refaire.
Ben ouais. Et vraiment, il y a ce moment effectivement où on se dit bon, qu'est-ce que je fais? Je me casse et je vais faire mon truc dans mon coin. Et puis il y a. Ce moment, on dit, bah non, a priori, jusque-là, ça fait effectivement quelques années qu'on bosse ensemble et ils ne se sont pas trop plantés jusque-là. Ils travaillent bien, donc a priori, ils n'ont peut-être pas tort, c'est peut-être moi qui me suis planté. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc bah, voilà, on a effectivement tout réécrit, ça a été très compliqué. La première a été rock'n'roll jusqu'au bout, bon voilà, ce que ça me dit là-dedans, c'est qu'effectivement, on est au travers de cette histoire humaine de résistance, on est évidemment embarqué, nous, l'équipe du spectacle, dans une aventure collective qui est pas banale, effectivement. Parce que je pense qu'effectivement, sur le premier épisode, ils m'auraient pas dit ça.
C'est ça.
Évidemment.
C'est
ça. Ça veut donc dire aussi que eux, quelque part, se sont tellement emparés du propos, même si c'est moi qui l'amène, qu'ils n'ont pas du tout envie de monter sur scène avec un truc qu'ils n'assument pas, quoi.
Ouais.
Et ça fait quand même plaisir aussi, quelque part. Et puis, c'est pas seulement les musiciens, c'est les techniciens, c'est le décorateur, et tous, ils étaient dans ce truc-là, quoi. Et moi, je me dis, bah, chouette, c'est-à-dire que même quand même le technicien te dit, bah non, écoute, ça va pas, recommence tout, tu te dis, bah ok, ça veut dire que là, on est dans un vrai travail d'équipe, quoi. Et qui pose en même temps tout un tas de questions. Le sujet du spectacle, c'est les communautés. C'est-à-dire le travail collectif. Donc, c'est quand même pas par hasard si ça tombe là-dessus non plus. Quelle est dans les expériences communautaires, quelle est la place de l'autorité du meneur, quelle est la place de la réflexion collective, de la démocratie intérieure, de tous ces trucs-là. Et là, on était exactement en train de vivre ça, quoi. Donc c'est énorme, c'est très beau en même temps, c'est très beau. C'est très compliqué sur le moment, mais c'est très beau fondamentalement. Et c'est vrai que bah voilà, maintenant, il reste un épisode à faire, je pense qu'on va réussir à rester tous ensemble. C'est vraiment une histoire collective, effectivement pas ordinaire, parce que ça a changé des choses.
Alors,
on est donc trois sur scène, deux musiciens et moi.
Alors,
Pascal Berthomier, essentiellement joue du violoncelle, mais autour de ça, y a du violoncelle acoustique électrique, il y a des boucles, il y a des tas de machines autour. Elle joue du banjo, dans un des spectacles, il y a du chant, il y a des petites percussions, il y a tout un tas de trucs, du marimba, tout ça.
Tu dirais qu'il y a quelque chose d'homogène musicalement à travers la série.
Ouais, c'est très étonnant parce que ce qu'il compose est toujours différent, toujours nouveau, et en même temps, ça ne ressemble qu'à eux. Et Xavier Vauchel, lui, donc, il est guitare électrique essentiellement et ordinateur. Donc, c'est lui qui fait toute la programmation, en fait. Et puis, voilà. Puis après, il y a plein d'autres petits instruments aussi, de la mandoline. Il y a des tas de percussions, de choses comme ça, de claviers. On va dire que le cœur du travail, c'est guitare électrique, violoncelle et ordinateur, quoi. Programmation. Et c'est un univers qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que c'est très, leur univers musical, il est très marqué par le cinéma, vraiment. À la fois par la musique de cinéma, parce que c'est ce qu'ils font par ailleurs, ils font de la musique de film, ils font du ciné-concert, et puis aussi par le goût, ils ont une énorme culture cinématographique, et du coup, le goût de l'image dans la musique. Quoi.
Mais tu dirais pas que ton travail se rapproche du cinéma
hein? Mais énormément, moi je trouve, hein, je pense, et puis alors, ça, il y a un projet qui est dans l'air, j'espère qu'il se réalisera, mais j'adorerais. Faire du scénario de cinéma, ça c'est un truc qui me botterait énormément. Et dans l'écriture, dans ma façon d'écrire, même le texte, je veux dire, c'est, je travaille avec des points de vue, je travaille avec des plans et des séquences, et des, évidemment. Et d'autant plus que je travaille sur un matériau sur lequel les représentations collectives que nous en avons sont des représentations de cinéma.
C'est ça.
Donc moi, évidemment, elles m'influencent, mais je ne peux pas non plus gommer l'idée qu'elles influencent aussi l'écoute des spectateurs. Évidemment, puisque quand moi je vais induire une image, les spectateurs vont se la fabriquer. Ils vont se la fabriquer avec leur culture à eux, qui est une culture de cinéma, quoi. Donc, enfin, forcément, à un moment ou à un autre. Donc voilà, on est trois sur scène. Il y a Emmanuel Villemot qui fait la création lumière, qui est aux manettes pour la lumière, et qui, dans le sixième épisode, est sur scène avec nous comme musicien. Ça aussi, ça prouve qu'il y a une histoire d'équipe aussi qui est incroyable, quoi, là-dedans. Moi, je trouve ça super. Il y a Bertrand Coquin qui est au son. En général, c'est lui, mais ça tourne un peu avec d'autres aussi. Et puis, Véronique Castet, qui est la chargée de diffusion et de production du spectacle. Donc ça, c'est l'équipe de tournée, on va dire. Il y a en plus donc Jean-Louis Compagnon, qui est le regard extérieur, metteur en scène, conseiller artistique. Voilà, celui sur qui à qui on peut poser toutes les questions pendant le temps de création et même après. Et qui est bien plus que ça, d'ailleurs, humainement. Et puis après voilà, il y a le décorateur, il y a la plasticienne qui s'occupe de tout ce qui est visuel, affiche et tout ça. Donc voilà, c'est une équipe qui est effectivement la même depuis le début, quoi.
Vite fautant la voile sur le drap de misaine, mon lit bateau s'envole, c'est moi le capitaine. Je passe par la fenêtre, personne me croira, je reviendrai peut-être. Mais peut-être pas. Parce qu'il y a des histoires planquées dans les livres qui attendent le soir pour se mettre à vivre. Parce qu'il y a des histoires planquées dans les livres qui attendent le soir pour se mettre à vivre. Parce qu'il y a des soleils qui brûlent même la nuit. D'accord, je sais pas lire, mais je sais que c'est écrit. Parce qu'il y a des dragons sur des îles lointaines, des indiens, des fées, c'est moi le capitaine.
Toujours avec François Godard et ses musiciens de l'inquiétant suspendu et son cycle Résistance, saga en 7 épisodes qui se passe entre 1917 à aujourd'hui.
Amélie fait asseoir Tristan à table. Viens là toi aussi. Léon s'installe lui aussi. Et Amélie va chercher une bouteille de goutte. La petite prune dans le fond du placard. Elle pose trois verres sur la table. Elle sert pour Tristan, pour elle. Allez, toi aussi. Maintenant, monsieur Tristan, tu vas me dire ce que t'es venu faire chez moi pour de vrai. Tristan fait tourner la goutte dans le fond du verre. Et quand il relève les yeux, y a plus de malice dedans. Y a plus que les 5000 ans de tristesse. Il se lève, il retire sa veste, il la pose sur le dos de la chaise, il se rassoit. Monsieur Tristan Maupré s'appelait en réalité Tristan de Maupré-Voir. À part ça, tout ce qu'il avait raconté la veille était vrai. L'armée, les listes, les fautes d'orthographe. Mais il n'avait pas tout dit. La famille de Maupré-Voir était une vieille famille de maîtres de forge dans les Ardennes. En 14, alors qu'il avait l'âge, il avait été exempté. Un colonel qui pouvait rien refuser à père. La famille avait déménagé, elle s'était installée un peu en retrait du front, mais pas trop loin. La guerre, c'était une manne pour un maître de forge. Des milliers d'obus chaque semaine, une montagne de fric et de puissance. Et lui sortait à Paris claquer tout ça avec les dandys, les fils à papa sapés comme des princes, avec les gros, les profiteurs de guerre. Toute la ville était à eux, toutes les filles étaient à eux puisque les autres n'étaient pas là. Mais un jour, en rentrant chez lui, après le passage d'une colonne de blessés qui descendait du front, il avait ramassé sur le sol une boule de papier froissée. C'était un journal clandestin, rédigé par les poilus, qui racontait ce qui se passait en vrai dans les tranchées. Et ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait lire dans les journaux à Paris. Ça parlait pas d'héroïsme, ça parlait pas de patrie, ça parlait pas de fierté, ça parlait de la boue, tu t'enfonces, de l'odeur des cadavres épinglés ou barbelés, des mines et des obus allemands qui ressemblaient tellement aux mines et aux obus qui sortaient de l'usine familiale. Il l'avait lu et relu ce journal jusqu'à ce que le papier tombe en miettes entre ses doigts. Et un soir, il avait tout plaqué. Il avait quitté le château familial et il avait marché jusqu'à s'en écorcher les pieds dans ses souliers vernis pour arriver dans une petite ville de l'arrière où il s'était engagé. C'était le 20 mars 1917. Il était resté 2 semaines dans cette petite ville, le temps d'apprendre à se servir du lebel, le fusil des fantassins, le temps d'apprendre à balancer une grenade dans la tranchée d'en face, le temps de voir passer un nombre incalculable de blessés. Et on l'avait monté au front. Vous pouvez pas vous imaginer, Madame Amélie. Personne, à part ceux qui y étaient, ne peut imaginer ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai fait. C'est pour ça, les bidouilles, les fautes d'orthographe. Je pardonnerai jamais aux généraux qui nous ont fait ça. Ça veut dire quoi, pardonner? Quand je suis arrivé au front, on m'a ordonné de tirer. J'ai tiré. Je peux plus vivre avec ça. J'ai cherché, je vous jure, des nuits entières à me brûler les yeux sur les archives pour retrouver les noms, tous les noms, mais un nom en particulier. Un nom, une trace, quelque chose, une famille, des gens qui l'aimaient, quelque chose qui soit pas rien, qui prouve qu'il avait existé. Vous êtes là, Madame Amélie, et vous êtes pleine de vie. Et votre Léon, c'est vraiment un bon garçon. Il aurait été fier de vous. Je suis sûr qu'il aurait été fier de vous. C'est le premier sur ma liste. Je l'ai pas vu longtemps, j'ai même pas vu ses yeux, mais voyez, ça me cogne encore dans la tête, 20 ans après. J'oublierai jamais. Quand je suis arrivé au front, on m'a mis dans un petit groupe. Que des nouvelles recrues. J'étais le plus vieux, les autres c'étaient des gamins de 17 ans. On nous alignait devant des poteaux. Voilà. C'est moi qui ai tiré sur Marc Desroses. Léon était debout, la chaise tombée en arrière. Il est parti en courant, il a claqué la porte, ils ont entendu la moto démarrer, disparaître dans la nuit. Amélie s'est levée, plus doucement. Elle s'est penchée vers Tristan. Du bout des lèvres, elle l'a embrassé sur la joue.
qu'on fait à ces petits enfants. Mais comment c'était? Comment on embrassait? Amour-là, quand s'embrasser, ça se faisait pas. Pour ces générations entières de jeunes filles déjà futures mères, est-ce qu'on embrassait ses amis devant tout le monde en société? Ou bien, comme avec son mari, fallait-il vraiment tout cacher? J'ai connu les bisous mouillés de ma mamie quand j'étais petit. Ces câlins, j'aimais tout. Les chatouilles dans le cou, les bisous d'une mamie, c'est tout doux. Aujourd'hui, quand mes lèvres se posent sur les pétales de tes lèvres closes, je me demande encore, est-ce que ce serait plus fort? Fallait pour s'embrasser qu'on ose. Ces jeunes filles qu'on aperçoit, robes longues sur les vieilles photos, avaient-elles seulement le droit d'aimer et de rêver tout haut? Ces jeunes filles pleines de sourires qui débordaient de leurs 20 ans, pouvaient-elles seulement s'offrir un petit bisou de temps en temps? Vie pour elle, sans la prison de leur dentelle, celles qui ont essayé et qui n'ont pas osé être heureuses et se trouver belles. Pour les autres, celles qui ont gardé sur les lèvres le baiser de leur mari absent, des amis, des enfants qui ont mis du rouge sur leur noir et blanc. Je n'ai que ce bouquet de mots et cette histoire qui n'est pas d'amour. C'est un tout petit cadeau pour celles qui aimaient au grand jour. Je n'ai que ce rêve de les voir abandonnés pour un bisou, leur vie corsetée de noir, et qu'elles vivaient malgré tout.
Donc si on veut qu'effectivement la musique ait une vraie place, ça veut dire que nous, il faut qu'on leur laisse la place aussi. Donc ça veut dire que dans notre écriture, il faut qu'on tienne compte de ces contraintes-là. Et de la même manière pour l'aspect scénique. À partir du moment où on veut être sur une scène sur laquelle il y a des lumières, sur laquelle il y a du décor, sur laquelle, eh ben, on n'écrit pas comme si on était tout seul. De la même manière que dans d'autres choses que j'ai pu faire ou que je continue de faire, s'il y a quelqu'un d'autre qui parle, bah, c'est pas du tout la même chose que si on est tout seul à parler.
Mais tu dis que l'écriture en elle-même tient toute seule, puisque tu dis que vous envisagez d'éditer,
ouais,
vous
éditez,
vous avez
édite
déjà commencé,
ouais,
à éditer les premiers épisodes. En objet à lire.
Ouais. Et ben je me rends pas compte. Je sais pas. Je me rends pas compte entre dans les gens qui le lisent. Je pense que la plupart des gens qui ont lu le texte, c'est des gens qui avaient vu le spectacle. Donc je me rends pas compte de ce que ça donne pour quelqu'un qui aurait pas vu le spectacle. Mais d'après les quelques retours qu'on a, ça fonctionne. Mais c'est une écriture. C'est effectivement une écriture qui est complètement axée sur la scène, c'est-à-dire complètement axée sur le récit, sur quelque chose qui se dit à la première personne et qui doit être entendu par quelqu'un d'autre en face. C'est-à-dire que même dans le texte, même quand il a fallu que je fasse les corrections pour l'édition, j'ai ramé un bout de temps à trouver comment redonner à l'écrit la forme de la langue orale, quoi. Jusqu'à trouver une forme qui me paraît à peu près correcte. Et donc voilà. Et après, les contraintes, effectivement, d'écriture, c'est essentiellement des contraintes, effectivement, de rythme, des contraintes de voilà, c'est des sortes de formes.
Voilà, je voudrais qu'à ce moment-là, ça se passe comme ça, et là, il va falloir que j'écrive d'une manière plus serrée, là, comment...
C'est exactement ça.
C'est ça ?
Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'arrive avec une histoire, le projet d'histoire, on en parle avec les musiciens, et puis là, nous, on se fait un scénario. On fait un scénario comme au cinéma, sauf
ensemble.
Que, voilà, ensemble. C'est-à-dire qu'on va dire, cette chose-là, cet élément de récit-là, c'est le récit, c'est la parole qui va le dire. Cet élément de récit-là, c'est la musique qui va le dire. Cet élément de récit-là, c'est la scène qui va le dire. Et puis, ça va durer tant de temps, à peu près. On va partir sur un gabarit, là, on part sur un gabarit de 12 minutes. Et puis, on part sur un gabarit dans lequel on part avec telle idée de rythme, telle idée de...
À ce moment-là, tu n'as encore rien écrit.
Non. J'ai rien écrit. Et une fois qu'on a ce truc-là, on fait des tas de petits dessins, ça monte, ça descend, il y a des bulles, il y a des machins. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh ben, on se met à écrire chacun en même temps. C'est-à-dire que ils écrivent la musique, j'écris le texte et on confronte en permanence. Ils sont dans une salle, je suis dans une autre salle à côté.
D'accord.
Et on... ben voilà, je viens essayer ce que j'ai fait, et puis eux ils essayent, et ils me font écouter, et puis moi du coup je vais corriger un truc, et puis eux ils vont, ah non ça marche pas, on va repartir sur tel, voilà. Et ce qui fait cette imbrication complète du texte et de la musique, c'est qu'on écrit ensemble. J'arrive pas avec un texte écrit sur lequel ils se calent. C'est même pour certains cas le contraire, c'est-à-dire que
tu t'es pas dit, ce texte-là j'ai décidé que je vais mesurer tout en phrases qui vont faire 6 syllabes.
Alors je l'ai fait pour Résistance 3 où tout est en vers, effectivement.
C'est pas le cas de tous.
C'est pas le cas de tous, non, il n'y a que Résistance 3 qui est en vert. Et enfin, il y a 45 minutes de vert, quoi, disons. Il y a une intro, une conclusion qui ne sont pas en vert, mais le récit lui-même, il est en vert. Et là, l'idée, c'était, la contrainte qu'on s'est donnée, c'était de dire une strophe de 4 vers doit toujours, enfin, un vers, plus exactement, la durée d'un vers doit toujours correspondre à la même mesure musicale.
D'accord.
C'est-à-dire, eux sont à tempo constant pendant tout le spectacle.
D'accord.
Tempo constant, et une mesure musicale correspond toujours à un vers.
Ah!
Voilà. Donc ça veut dire que si je veux parler lentement, il faut que j'écrive des vers courts. Si je veux parler vite, j'écris des vers longs.
D'accord. Ton vers ne peut pas déborder sur 2 ou 3 mesures.
Non. Il aura toujours le même gabarit musical. C'est la contrainte qu'on s'est donnée. Et c'est une contrainte, alors, moi, j'ai trouvé passionnante, parce que du coup, c'est hyper créatif. On est obligé de chercher des formes, de chercher des... Voilà. Et c'est à faire, c'était génial, quoi. C'était vraiment génial. Et là, on est allé même au bout du bout du truc inverse, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans le spectacle, la fin du spectacle, enfin, la fin de la partie récit, qui se trouve être une pièce de musique que Xavier avait écrit avant, pour autre chose. Et il a changé le tempo, il a revu un peu la pièce, truc électro, complètement électro. Et il m'a dit, bah, moi je pense que la fin, ça serait pas. J'ai écouté, puis j'ai dit, bah ouais, ça serait pas mal. Et du coup, c'est moi qui ai écrit sur cette musique-là. Voilà. Et avec toujours les mêmes contraintes, c'est-à-dire que c'est tempo constant et c'est voilà, une phrase correspond à. Mais du coup, dans cette séquence-là, il y a des parties où les vers font 8 pieds et il y en a d'autres où ils en font 12.
C'est ça.
Parce que selon le rythme dont j'ai besoin, moi. Quoi.
C'est ça. D'accord.
Mais ça, c'est vraiment que sur cet épisode-là. Dans les autres, on s'est donné d'autres contraintes esthétiques.
Ouais.
Dans l'épisode 4, par exemple, on s'était dit comme contrainte esthétique, donc c'est sur les maquis, 43-44, on s'était dit, là, on va essayer de travailler sur le raffinement. C'est ça l'idée. Donc, eux, ils ont travaillé sur une forme d'écriture qui est très, très inspirée de musique baroque, puisque c'est aussi la culture de Pascal, il se trouve que c'est aussi le bagage culturel de Pascal. Et moi, j'ai travaillé sur une forme d'écriture où le décalage poétique est permanent dans ce qui est dit même. Quoi.
Raffinement, vous êtes venu comment ?
Parce qu'on a décidé que la forme de résistance qu'on allait vouloir raconter à cet endroit-là, c'était le fait de dire que Inès, donc, qui est l'héroïne de cet épisode-là, son maquis, ce qu'elle fabrique, c'est une tireuse d'élite, c'est une combattante. C'est un personnage assez paradoxal parce que c'est une tireuse d'élite. À côté de ça, c'est une maman. C'est une jeune femme espagnole, voilà. Et on a dit que ce dont on voulait parler, c'est que ce maquis, c'était un endroit de poésie au milieu de la barbarie, quoi. C'est-à-dire que parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des questions d'amour, parce qu'elle trimballe avec elle tout le temps une valise dans laquelle il y a des bouquins, parce qu'il y a un mec dans le maquis qui est un réfugié d'Europe de l'Est qui joue du violoncelle, et que elle, quand elle vient d'une mission, rentre d'une mission qu'elle a buté des gens parce que c'est son truc de buter des gens, et ben elle s'assoit et elle écoute le violoncelle. Voilà, on essaie
donc là c'était raffinement.
Voilà.
Et vous avez trouvé.
Et on a travaillé sur cette notion-là, quoi, du coup, dans l'écriture, du texte et de la musique. Dans l'épisode 5, par exemple, sur la guerre d'Algérie, on a essayé de travailler. L'idée, c'était d'emmener notre héros, Joseph, le plus loin possible jusqu'au bord de la folie, dans l'absence de mots. Ce qui est très paradoxal pour un conteur. C'est-à-dire que je voulais essayer de raconter le fait que l'armée, c'est l'endroit où on ne peut pas parler et où il n'y a pas de récit. Et mon personnage devient libre dans l'histoire, dans le spectacle, à partir du moment où il accède au récit de son père. Tant qu'il n'a pas le récit de son père, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Ce que j'ai retrouvé beaucoup dans le collectage que j'ai fait auprès des anciens combattants, qui était de dire... On dit toujours les anciens combattants d'Algérie, ils ne veulent pas en parler. Mais moi, quand j'ai parlé avec eux, d'abord, certains d'entre eux m'ont parlé plein de choses, évidemment, mais surtout, ils m'ont dit, mais tu sais, nos pères qui avaient fait la guerre de 40, ils n'en parlaient pas non plus.
Et donc, la clé, c'était quoi ?
Et ben, c'était de travailler sur l'idée d'aller vers l'absence de mots. Vers le silence des mots. Le moment.
Concrètement,
ça veut dire que dans mon écriture, si tu veux, c'est son journal, c'est écrit comme étant son journal, à la première personne, dans les premières pages, c'est bien écrit. Et puis plus tu avances dans le temps, plus c'est mal écrit. Parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est en train de péter un câble, quoi, parce qu'il est en train de devenir fou. Jusqu'au moment où réellement il va devenir fou, quoi. Et effectivement, c'est parce qu'à ce moment-là, il entend l'histoire de son père qu'il va pouvoir, dire j'arrête. Ok, continuez votre guerre si vous voulez, mais sans moi, quoi. Voilà, sans moi. Du coup, toute l'écriture est axée là-dessus aussi, c'est-à-dire sur aller vers le rien, quoi. Aller vers le rien. Et il y a vraiment des moments dans le spectacle qui sont des longs moments où il se passe rien. Parce que là aussi, c'est un truc qu'ils m'ont beaucoup raconté, les anciens combattants d'Algérie, c'est qu'est-ce qu'on s'est fait chier, quoi. Qu'est-ce qu'on s'est emmerdé, quoi, là-bas. Voilà, donc on se donne des c'est pas vraiment là en l'occurrence, c'est pas comme de décrire en vers, c'est pas une contrainte d'écriture, c'est plus une direction esthétique qui va être à chaque fois différente pour qu'on puisse à chaque fois nous se renouveler aussi, parce que sinon il y a un moment où tu tournes en rond. Et donc voilà, le premier sur les Mutins de 17, c'est on est dans une esthétique java punk, on va dire, c'est-à-dire que on est dans quelque chose qui est, nous on s'est donné comme image pour se représenter ça, les films de Kusturica, tu vois, où t'es dans un truc effectivement où plus ça va mal, plus il faut jouer de la musique, quoi. Tu vois, plus et ça chante et ça braille et ça, tu vois, parce que de toute façon on va mourir à la fin, donc faut que ça, voilà. Et le premier est vraiment là-dedans, tu vois. Bon, c'est histoire de à chaque fois de chercher des pistes différentes, quoi. Mais c'est en même temps c'est des questions vachement intéressantes parce que c'est justement par rapport à la question qu'on se disait tout à l'heure sur les compteurs et sur la critique et tout
t'as ça. T'as dit, je t'ai entendu dire ça tout à l'heure et je t'avais déjà entendu le dire avant. Les compteurs se définissent souvent sur le contenu, sur leur répertoire.
Voilà.
Je raconte ça ou je raconte ça.
Je raconte des mille et une nuits ou je raconte. Mais ce qu'on se dit jamais, c'est comment.
Ça veut pas dire grand chose.
Mais non, ça veut pas dire grand chose parce que entre quelqu'un qui raconte les mille et une nuits et une autre personne qui raconte les mille et une nuits, ça n'a rien à voir, quoi.
C'est ça.
Et entre quelqu'un qui va prendre les mille et une nuits pour faire du cinéma et quelqu'un qui va prendre les mille et une nuits pour faire de la musique, donc le contenu suffit pas. Et nous, c'est vrai qu'on tout le temps on se pose des questions d'esthétique, quoi, et de forme, voilà. Et parce que ça m'intéresse, parce que moi je suis assez formaliste, j'ai besoin d'écrire, j'improvise pas beaucoup, enfin. Et parce que du coup on peut aussi se le permettre parce qu'on a aussi ce projet dans lequel il y a des musiciens qui ont eux-mêmes, les deux musiciens, des parcours différents, des bagages différents. Moi, j'arrive avec encore autre chose. Et du coup, c'est la confrontation de ça aussi qui donne la largeur de la palette possible. Quoi. Voilà. Et puis, Jean-Louis Compagnon qui regarde, qui écoute et qui, lui, arrive avec un bagage d'accompagnateur de conteur depuis 30 ans et de chanteur et de musicien. Donc, voilà, on est encore dans un autre type d'apport, quoi. Qui permet qui permet justement de se poser des questions d'esthétique, quoi. Mmh. Voilà. Après, faut pas, enfin, on patauge là-dedans comme tout le monde, hein, faut pas se. Mais en tout cas, effectivement, on se les pose, quoi.
Mmh. Ouais.
S'ouvrir le ventre pour y chercher la lumière en l'absence de nos pères, puisqu'avant nous ils sont partis à la guerre, on ira aussi à la guerre. Les femmes ont choisi notre nom, elles nous attendent vivants ou morts. Des fils elles en auront encore à qui elles chanteront nos chansons, puisque la terre est à nos pères, puisque le sang est leur parole. Tout droit en sortant de l'école, nos fils partiront à la guerre.
Bâtir notre plus belle muraille, le silence. Oh mon amour, ma solitude, dans quelle langue pourrais-je te dire que je n'ai appris qu'à détruire avec mes pauvres certitudes. Les mots ont oublié leur sens et mes brouillons assassinés sont comme tous ces corps torturés, engloutis déjà de silence. Carnet des légendes, puisque tu veux l'égalité, je rentrerai dans ma maison. J'essaierai de trouver un nom pour mes cauchemars de papier. Ce sera fini et non d'emprunt. Je commencerai ma vie d'homme en regardant ton petit bonhomme, et son nom ce sera le mien.
Joseph sort de la cellule. Il est 8h du matin et autour de lui dans le poste, il y a de l'animation. Ça court, ça crie dans tous les sens. On écoute la radio. Nous sommes le 22 avril 1961. L'armée vient de prendre le contrôle de l'Algérie et du Sahara. Les généraux menacent de débarquer en France pour renverser le gouvernement. Le capitaine était parti la veille à une réunion d'état-major. Il n'est pas revenu. Le poste est sous la responsabilité des lieutenants qui comprennent rien à ce qui se passe. Joseph est embarqué avec les copains. Il a pas dormi, mais personne ne dort. Tout le monde est plus réveillé que d'habitude. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'en ai plus que pour 2 mois avant la quille, moi. Avec leur bordel, quand est-ce qu'on va rentrer? Et en France, qu'est-ce qui se passe en France? Le ton commence à monter entre les sous-offs et les appelés. J'ai reçu un ordre du capitaine. On doit se tenir prêt, se rassembler à Batna pour rejoindre les généraux. Pas question! Nous, on veut juste rentrer chez nous! La journée se passe dans un désordre invraisemblable. Les hommes pillent les cuisines et les réserves du foyer. Ils mettent des disques à tourner entre 2 discours à la radio. Joseph parvient pas à remettre la main sur la clé de la petite cellule. Une nuit, tendue. Au matin, l'ambiance est encore montée d'un cran. Le général de Gaulle parle à son tour à la radio. Il appelle les soldats du contingent à désobéir aux carterons de généraux en retraite. Instantanément, les sous-officiers sont désarmés, enfermés dans les cellules. Les prisonniers qui étaient dans les cellules sont emmenés à l'extérieur du camp, enchaînés sous des bâches de camouflage. Pendant toute la journée, Johnny Hallyday retentit à plein volume sur le désert. Les hommes sortent aussi de sous le comptoir du foyer à 45 tours des chaussettes noires. Face A, oh Daniel, sous les cris de joie, il retourne le disque face B. Eh, c'est pas le Dactylo Rock ça? C'est un disque pirate, avec l'hymne du FLN sur la face B. Envoyé à fond, jusque dans les cellules des officiers. Une deuxième nuit, tendue, joyeuse. On parle. Chacun redevient ce qu'il était avant d'arriver en Algérie. On parle des fiancés qui nous attendent. On parle du métier qu'on va retrouver en rentrant. On parle de la terre, de l'usine, des cours de géographie, du fournil. Troisième matin, Joseph découvre que tous les prisonniers ont disparu. Quelqu'un les a libérés pendant la nuit. Il demande, il interroge, mais ils sont bien tous partis. Même le chef.
Quel chef?
Bah celui qui était dans la petite cellule. Il n'y avait personne dans la petite cellule. Mais si, tu sais bien, celui qu'il fallait faire parler. Hé, hey, Dero, c'est le rock'n'roll qui te monte à la tête, toi. Il n'y avait personne dans la petite cellule. Mais j'y étais, moi, c'est moi qui le surveillais. Mais t'as rêvé, mon vieux, t'as rêvé. Hé, hey, viens, on a trouvé des piles, viens, on va écouter la radio.
C'est des spectacles que tu arrives à jouer, parler vraiment de choses.
Ouais, on y arrive. Après,
les jouer, c'est.
C'est ça. Moi, j'aimerais que ça joue beaucoup plus, évidemment.
C'est un type de spectacle. On n'est pas franchement dans le divertissement.
Non, pas franchement. Non, puis c'est un objet hybride. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans c'est du conte,
c'est
enfin
musique,
moi je prétends que c'est du conte, mais
du
je suis le seul à le dire parce que si on dit conte aux programmateurs de théâtre, ils te prennent pas. Donc ma chargée de diff passe son temps à retirer le mot conte de tous les dossiers et toutes les présentations et tout.
Qu'est-ce qui fait... ça tient à quoi à ton avis ça? C'est un peu compliqué comme question, mais
ça tient
pourquoi à... les programmateurs ne programment pas de conte?
Je pense que ça tient à un manque de culture probablement chez les programmateurs, d'une part,
de ça.
Et d'autre part à un manque, mais ça c'est très prétentieux de ma part de le dire parce que ça donne l'impression que je me mets en dehors de ça, ce qui n'est pas vrai. Mais ça tient aussi, je crois, d'un manque sérieux de qualité dans le travail des conteurs. Mmh. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur, quoi. Mmh. Artistiquement de ce qu'on prétend vouloir défendre. Mmh. Donc ça tient aussi à ça, c'est-à-dire qu'effectivement... c'est un autre débat, mais quand effectivement on met sur la même scène, dans la même programmation, un conteur et un comédien, y a des spectacles de théâtre complètement pourris, bien sûr, ça existe, hein, mais c'est pas la question. Mais il y a quelque chose dans le.
Enfin, y a des gens qui ont appris une technique dans une école, par exemple, et d'autres pas. Il y a ça aussi.
Ouais, il y a ça, et puis il y a au-delà de ça le fait que les lieux dans lesquels on est susceptible d'être programmé dans une programmation pluridisciplinaire sont des lieux de théâtre. Oui. Qui fonctionne donc avec les codes du théâtre et dans lesquels les spectateurs viennent avec une culture de théâtre. Et c'est-à-dire que nous, évidemment, avec Résistance, on arrive. C'est pour ça que ça marche dans ces lieux-là. Enfin, ça marche. On peut rentrer dans ces lieux-là, nous, avec Résistance, parce que, effectivement, il y a un plateau qui est un vrai plateau, il y a une création lumière qui est une vraie création lumière, il y a un décor qui est un vrai décor. Donc, déjà, en termes de code, il y a un début, il y a une fin, je sais pas comment dire, il y a un noir au début, un noir à la fin, enfin voilà, qui sont des trucs de théâtre.
Qui sont des codes de spectacle.
De spectacle, mais voilà, qui sont issus de l'histoire du théâtre.
Ouais, ouais.
Et qui sont pas issus de l'histoire du conte nécessairement, quoi. Donc, on peut, nous, aller jouer là-dedans plus facilement que dans les lieux qui programment des compteurs, parce qu'évidemment, on débarque en tournée en S6. Et non, on est seulement en S6, mais techniquement, c'est un petit peu lourd. Enfin, c'est, pour du théâtre, c'est pas lourd, mais pour du compte, c'est très lourd. Donc, voilà, les lieux de compte nous programment assez peu, de fait. Voilà, parce qu'on est un peu hors cadre, je crois. Voilà, et puis après, il y a des lieux qui nous prennent aussi parce qu'ils sont sur tel type de rapport à la mémoire, par exemple. Des lieux militants ou des lieux axés sur, par exemple, effectivement, la guerre d'Algérie ou tout ça, qui du coup vont nous prendre parce qu'on parle de ça, quoi. Mais globalement, les lieux dans lesquels on joue, c'est des théâtres, quoi, essentiellement. Ouais. Mmh. Voilà.
Qu'est-ce que tu vas faire
quand ça va être fini? Bah, j'en sais
trop
rien.
La vache.
Non, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai déjà une idée de ce sur quoi j'ai envie de travailler après, mais j'ai pas du tout d'idée de la forme, par contre. Je sais pas du tout sous quelle forme, donc ouais, on verra bien. Je sais pas avec qui, je sais pas. Voilà.
Et c'est monter le désir.
Ouais, exactement. Mais par contre, ce que j'espère que je vais avoir le cran de faire, c'est que j'espère que quand on aura créé le 7e, je vais prendre le temps de passer quelques années à jouer et à pas recréer tout de suite autre chose. Quoi.
Les Allemands étaient chez moi. Ils me disent « Résigne-toi ». Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Il existe une ligne droite, parfaite et indiscutable. C'est la trajectoire d'une balle entre le canon de l'arme et la tête de la cible. C'est facile, et pour peu qu'on sache s'y prendre, c'est sans bavure. L'arme est dans les mains d'un combattant isolé, un héros, un résistant, un partisan, un terroriste, un sniper. Tout ça, c'est qu'une question de point de vue, finalement. En tout cas, c'est un combattant rempli d'idées et d'idéal, fier de son combat et sûr de lui. Ce qui est beaucoup plus difficile, ce qui est infiniment plus tortueux que la ligne droite de la balle, c'est de choisir la cible. Quelle tête, en tombant aujourd'hui, ferait tomber tout ce qu'on voudrait voir tomber ?
Une heure, ça fait une heure que tu parles.
Ben oui, je suis un peu bavard,
quand
quoi.
Même, hein.
Ouais, quand même, il faut pas me lancer, moi.
Bon, François, on arrête, hein. Merci, en tout cas.
Bah non, de rien. Avec plaisir.
Voilà, les deux émissions consacrées à François Godard arrivent à leur fin. Merci à Anne-Gaëlle Godu-Chaud. Si vous désirez réentendre les deux émissions donc consacrées à François Godard, vous pouvez le faire en faisant www.c'estpaspourdire.fr. Et puis sinon, ben, n'hésitez pas à faire les quelques kilomètres qui vous séparent de la première salle de spectacle qui programmera Résistance. Je crois que ça en vaudra le coup. À très bientôt et au revoir à tous.